les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc on va commencer, hein, il est l'heure. On a donc une heure et demie ensemble sur le thème central de ce salon, qui est donc installer des paysans, transmettre des fermes pour un autre système agricole et alimentaire. C'est bien vraiment un thème capital actuellement. On est plusieurs intervenants à poser le débat. Donc je vais les présenter rapidement. Il y a Denis Fanget qui est ici pour l'ADA, qui a aussi d'autres cordes militantes à son arc, pardon, excusez-moi, notamment à la Confédération paysanne. Il y a Monsieur Farah, donc David Farah, qui est le vice-président de Saint-Étienne Métropole à l'agriculture et, alors si je ne me trompe pas, à la transition agricole et alimentaire. Merci. Il y a Christelle Bergeau, qui est administratif au réseau Aura des AMAP. Et il y a notre parrain du salon, qui est Jean-Claude Balbeau. Et Jean-Claude Balbeau, qui est ancien paysan, qui a été administrateur du réseau national des CIVAM et qui est administrateur de la coopérative L'Atelier Paysan. Installer des paysans, bien sûr, et transmettre des fermes, c'est un enjeu central. Si on veut inverser les logiques actuelles qui entraînent la disparition des paysans et des fermes. Et si on veut modifier le modèle agricole dominant au profit d'une agriculture qui soit en capacité de nourrir correctement toute la population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système agricole qui non seulement n'est pas en capacité de nourrir toute la population, mais qui en plus détruit l'environnement, dégrade le climat et crée des problèmes sociaux, notamment dans le milieu paysan, mais pas que, et des problèmes sanitaires. On a donc aujourd'hui, on a un mouvement qui est un mouvement de concentration et de destruction des paysans, un mouvement de concentration des fermes et de destruction des paysans qui continue, qui malgré tous les efforts des uns et des autres, tous les efforts des réseaux qu'on a, continue, ce mouvement de concentration continue. Et on n'arrive pas pour l'instant non seulement à le stopper, mais aussi à essayer d'inverser la courbe. On a devant nous des enjeux qui sont très importants, puisque aujourd'hui, en moyenne, 50% des paysans, si je ne me trompe pas, ont plus de 50 ans. Y a un enjeu très important de passer le relais. Et ces enjeux-là, pour l'instant, ils ne sont pas réglés dans le sens de ce qu'on souhaite, nous, c'est-à-dire que pour avoir une agriculture qui puisse nourrir correctement toute la population, c'est une multiplicité de fermes et d'installer des centaines de milliers de paysans. Donc, tout à l'heure, dans le débat qui a précédé, je crois que c'est Laurent Pinatel qui donnait l'exemple de son canton, hein, où il y a eu, sur simplement les dernières années, sur un petit canton, hein, Sage-d'Aire, il y a eu 7 à 8 fermes qui ont disparu et aucune s'est installée. Aucune. Donc il y a vraiment un problème qui est important qui est posé et la question est de savoir comment on crée un mouvement inverse, comment collectivement on peut créer un mouvement inverse par rapport à ça. Alors, je vais peut-être commencer à t'interpeller, Jean-Claude, parce que dans le livre collectif de l'Atelier Paysan qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines », vous prenez l'exemple de Terre de Liens, qui est un projet puissant, hein, bien sûr, qui lutte contre la disparition des fermes et des terres agricoles, vous donnez l'exemple dans ce livre, qui, en 20 ans, a sauvé l'équivalent de ce qui disparaît chaque semaine en termes de nombre de fermes. C'est-à-dire, en 20 ans, Terre de Liens a installé autant de fermes que ce que disparaît en une semaine. Donc, et vous dites qu'il est nécessaire en même temps, si on veut, dans un premier temps, changer la donne, c'est d'installer 1 million de paysans, encore que ça ne sera pas suffisant, parce que ça voudra dire que si on veut que nourrir correctement l'ensemble de la population avec 1 million de paysans, ça veut dire que chaque paysan s'éreinte au travail, et donc c'est un premier élément, un premier pas, mais qui est totalement insuffisant. Donc, quel diagnostic donc tu poses, quel diagnostic tu poses sur ces questions et comment tu proposes de débloquer cette question-là qui est quand même centrale et qu'on n'arrive pas à inverser depuis des années et des années.
Vaste question. Merci tout d'abord de l'invitation et merci de votre attention. En effet, le constat que tu faisais à propos de Terre de Liens et de la nécessité de l'installation, il est cruel, comme sont cruels d'ailleurs la plupart des constats qu'on fait quand on regarde nos participations dans les différentes alternatives de production comme de consommation, si tant est que l'on veuille tous accéder à une forme démocratique d'alimentation pour l'ensemble de la population. Alors sur l'installation elle-même, c'est pas faute de s'être battu pour l'installation. C'est pas faute même d'avoir réussi à installer du monde. Moi, à titre d'exemple, mais c'est vraiment anecdotique, sauf pour moi, je suis parti en retraite en laissant 53 hectares derrière moi. Aujourd'hui, ils sont installés 3 personnes qui ont repris à peu près l'activité complète de l'exploitation. Ils sont 3. C'est-à-dire que, y en a une qui a repris derrière son grand-père et qui est venue compléter son exploitation avec une partie de la mienne. 2 autres qui viennent de l'extérieur, du milieu agricole, pardon, et qui sont depuis 10 ans éleveurs et ça a l'air de se passer bien pour eux. Donc il y a moyen de le faire. L'autre jour, j'étais à côté de Dijon, à Malin, dans une fête un peu du même style que la vôtre, sur un lieu de production où un groupe de citoyens, à travers un GFA, et notamment avec l'appui de Terre de Liens, s'est emparé, pas violemment, hein, avec l'assentiment de son paysan, de 80 hectares de terre. Et sur les 80 hectares de terre où il y avait un paysan, aujourd'hui, ils sont 6. Là, donc ça commence à devenir extrêmement intéressant. Et ça, on ne peut pas le nier. Et c'est parce qu'on voit ça, et c'est parce qu'on le vit, chacun d'entre nous, qu'on est capable de dire « ça n'est pas suffisant ». Et non seulement ça n'est pas suffisant, mais ça signe notre impuissance. Puisqu'on peut le faire et qu'on ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, dans notre tête, est bloqué, qui nous rend impuissants sur ça. Alors, pourquoi vouloir installer des paysans ? Tu as dévoilé en partie le pourquoi. La raison, c'est que nous, aujourd'hui, il est inutile de se raconter d'histoire. Nous sommes 450 000, semble-t-il, parce que je pense qu'on est encore un peu moins que ça, à produire à notre compte de la nourriture. Il y a aussi des ouvriers, donc ça fait à peu près 600 000 personnes. Je ne compte pas les personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire. On devrait le faire, d'ailleurs. Mais en tout cas, à la production. Et ces 450 000, qui risquent de devenir très vite 300 000, on ne peut pas vous nourrir demain sans pesticides et sans robots, aussi peu nombreux que ça. Ça, c'est simplement impossible. On pourra nourrir jusqu'à 10 à 15% au maximum de la population sans pesticides et sans robots. Les pesticides et les robots ont remplacé les paysans qui ne sont plus là. Les pesticides et les robots ont détruit le travail. Et sciemment, c'est une politique publique qui a fait le choix du chômage. Et depuis 70 ans. Donc c'est en ces termes-là et dans ce paysage-là qu'il faut penser une proposition politique nouvelle. Si nous voulons tous demain vous nourrir correctement comme on pense que vous aspirez tous à le faire, c'est-à-dire sans trop de gras, sans trop de pesticides, sans trop de sucre, de sel, une nourriture qui n'est pas trop transformée, qui rémunère les paysans et ceux qui travaillent dans les chaînes d'approvisionnement et de transformation, si on veut ce type de nourriture, tous, il faudra au bas mot qu'on soit 1 million, 1,5 million de paysans. C'est une nécessité pratique, physique. C'est impossible de faire autrement. Et ça, tu viens de le dire, mais je le redis avec mes mots, c'est condamner ces 1 million, 1,5 million de paysans quasiment au bagne. Parce que ça, c'est ce que j'ai fait. 40 ans, 70 à 75 heures par semaine, tous les métiers du monde, la production, la transformation, la vente, pour alimenter des AMAP, pour alimenter des quartiers résidentiels, pour alimenter des marchés de plein vent. Et on est quelques-uns comme ça. Et même dans cette créneau-là qui alimente cette partie de la population, eh bien, il y a des gens qui cèdent. Aujourd'hui encore, quand on installe 5 maraîchers dans les circuits courts sous signe de qualité, au bout de 5 ans, il n'en reste plus que 2, voire. Oui, 2. Voilà, 2, en bonne santé. Les autres ont lâché en route. C'est ça qu'il faut éviter. Quand on a une politique aujourd'hui publique d'installation, il faut éviter d'envoyer des jeunes au casse-pipe. Et c'est à ça qu'aujourd'hui, moi, alors, il y a 10 ans, quand j'ai transmis ma ferme, c'est un exemple parmi d'autres, hein, c'est juste pour m'appuyer sur des choses que je connais. Il y a eu un vaste mouvement. Il y a eu 10-12 personnes qui sont venues nous trouver en nous disant « Ah ben, on est intéressé pour la ferme ». On a découvert à ce moment-là que les jeunes ne voulaient plus d'élevage, qu'il y avait des jeunes qui voulaient s'installer à la campagne, ils ne voulaient plus faire d'élevage. La ferme, moi, c'est une ferme d'élevage. Si vous voulez faire un hectare de maraîchage, il faut venir à 53. Il y a 53 hectares. Venez à 53 ensemble et puis on va discuter de la manière dont on vit à 53 sur une ferme de 53 hectares, là où je suis. Ça n'est pas arrivé, donc on a retrouvé la chance à des gens qui voulaient parler d'élevage. Mais pour conclure et vous rendre la parole clairement, si on ne fait pas cet effort-là, envoyer des jeunes au casse-pipe, c'est tout ça. Alors, je déteste faire pleurer les chaumières, mais l'année dernière, on est allé à l'enterrement d'une jeune maraîchère qu'on avait installée et qui est allée se pendre 2 ans après. Alors, je ne veux pas faire pleurer sur les chaumières, ce n'est pas du tout mon style. Et on sait d'ailleurs, on sait qu'il y a une partie de la profession et de l'investissement en temps et en argent qui l'a bloqué, mais il y avait sans doute aussi, comme toujours, une situation préalable. Mais n'empêche que c'était la première fois des enterrements de personnes qui se foutent en l'air en agriculture. Vous pouvez y aller tous les ans. Ça fait 40 ans, je connais au moins 40 personnes à l'enterrement duquel je suis allé dans ces situations-là. Donc ça sert même plus à faire pleurer qui que ce soit. Mais là, c'était la première fois qu'une personne que nos réseaux avaient poussé à installer se foutait en l'air pour des raisons en grande partie économiques. Ce matin, on parlait des plafonds de verre auxquels, tout d'un coup, nos modes de production sous label de qualité là, étaient en train de se heurter. Il y a des marchés qui sont saturés. Vous installez des jeunes maraîchers, vous en installez, puisqu'il y en a plein qui demandent, vous en installez plein, et puis il n'y a plus de marché. Donc, ils sont dans la merde. C'est un métier très dur, le maraîchage, bien plus dur que l'élevage. Les jeunes ne comprennent pas. Ils disent, allez, j'arrête avec ça. Mais vous voyez, il y a une réflexion générale à avoir plus largement que de se dire j'ai besoin de légumes bio dans mon AMAP et j'ai besoin d'installer des maraîchers. On va en installer 8000, alors qu'il faut avoir plus loin que ça. Ça n'ira pas avec ça. Ça, c'est le début. Hein. Je présente l'autre chose. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais.
Oui, mais après, on reviendra sans doute dans le débat et puis peut-être dans les discussions entre nous là, sur ces questions-là. Denis, l'ADR, donc ça fait déjà des années que vous attrapez cette question d'installation et transmission avec un travail considérable. Donc vous, ici, mais c'est qu'un exemple qui, à mon avis, ne détonne pas par rapport à la situation nationale, mais ici, dans la Loire, c'est quoi, en gros, l'état des lieux et les enjeux? Quels sont aussi les freins? Parce qu'on en discute souvent, mais il y a quand même des jeunes qui veulent s'installer. Et en même temps, il y a des freins considérables à leur installation qui sont de différents types. Et puis, je crois que, on en discute un peu également, il y a une question, il y a des volontés individuelles, mais il y a une question aussi de voir comment on la joue collective, quoi, pour favoriser ces enjeux-là que vient de poser Jean-Claude. Tu vois les choses comment, toi?
J'y reviendrai à la fin. Bon, ça semble un paradoxe que des têtes blanches parlent d'installation, parce que c'est plutôt une affaire de jeunes en principe, mais j'y reviendrai à la fin, on verra pourquoi il faut que les têtes grises s'en occupent aussi. Donc je vais juste commencer mes propos par des données factuelles de la situation de la Loire en matière d'installation. Donc il faut savoir qu'on a à peu près 80 installations aidées par an dans la Loire. Et on estime qu'il y en a à peu près autant d'installations non aidées. Je vous expliquerai la différence juste après. En sachant que les statistiques non aidées sont pas précises, parce que les seuls qui détiennent les chiffres, c'est la MSA, et pour des raisons de confidentialité, ils transmettent pas leurs chiffres. On a quelquefois des chiffres bruts. Voilà. Et donc, pour les aider, la typologie des installations, c'est essentiellement de l'élevage dans la Loire. C'est plus de la moitié. Donc, c'est 45% qui sont en projet individuel. Le reste, c'est des projets collectifs, des GAEC, enfin, ainsi de suite, des ERL et compagnie. Il y en a 50% qui font du circuit court, mais c'est circuit court au sens large, c'est-à-dire que ça peut être total ou partiel. Voilà. Et puis, l'année dernière, c'était 42% en appellation AB, agriculture biologique. C'est une tendance qui était en hausse jusque-là et qui est un petit peu à la baisse pour l'année qui vient. L'installation aidée se féminise. L'âge moyen est autour de 30 ans. Voilà. Et on considère qu'il y a à peu près, dans le jargon des installations, 50% qui est hors cadre familial, qui n'ont pas de lien direct avec l'exploitation qui reprennent. Et c'est pareil, c'est un peu large, parce que des gens qui s'agrandissent, on considère si la partie agrandissement est plus grande que la partie issue du domaine familial, on considère que c'est aussi un orchestre familial. Voilà. Les investissements moyens sont à peu près de 170 000 euros par UTH, c'est-à-dire par unité de travailleur. Et le montant moyen de la DGA, c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est 45 000 euros. Voilà.
C'est aide aux jeunes agriculteurs.
C'est dotation aux jeunes agriculteurs, excusez-moi. C'est dans le jargon. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on trouve dans, comme typologie dans les installations non aidées ? C'est des gens qui ont dépassé l'âge légal de l'installation aidée, c'est-à-dire qui ont plus de 40 ans. C'est des gens qui peuvent avoir des problèmes de formation. C'est des gens qui refusent de rentrer dans un cadre contraint que leur impose le parcours à l'installation type chambre d'agriculture. C'est parfois des gens qui ont besoin de beaucoup de progressivité parce que c'est de la création et que le parcours à l'installation tel qu'il est prévu, il est un peu court, il est un peu contraint et ils n'y arrivent pas. Et puis c'est aussi une perte d'attractivité du fait que les installations soient aidées parce qu'il y a plein de choses qui n'existent plus. On a, par exemple, supprimé les quotas laitiers. Avant, beaucoup de gens s'installaient avec les aides parce qu'ils obtenaient les quotas laitiers à l'installation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y avait un problème d'accès au crédit. Aujourd'hui, les taux sont très bas. Avant, les taux étaient très élevés. On avait des taux préférentiels quand on s'installait avec les aides. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, dans certaines zones de plaine, les aides sont un peu basses. Et du coup, les gens ils ne voient pas trop d'intérêt à demander les aides à l'installation. Je me suis perdu dans mes papiers. Donc, pour les installations aidées, le parcours, parce que c'est un vrai parcours du combattant, hein, donc, c'est un guichet unique qui est tenu par la Chambre d'agriculture. Chaque candidat à l'installation, porteur de projet, doit passer au point accueil installation. Le point installation de la Loire reçoit à peu près entre 400 et 500 candidats à l'installation aujourd'hui. Vous voyez le déchet technique qu'il peut y avoir par rapport aux 80 qui finissent par s'installer avec les aides. Après, les autres, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent puisqu'il n'y a pas d'évaluation. Le PAI fait une évaluation des compétences. Il inscrit les gens dans un parcours personnalisé professionnalisant. À la suite des formations réalisées, on fait un montage économique qui s'appelle le PDE. Le parcours se termine par une formation collective de fin de parcours, hein, c'est-à-dire que les gens échangent sur leurs projets entre eux. Et puis, c'est le fameux passage à la commission paritaire, CDOA, où des professionnels et l'administration siègent et donnent leur aval pour que les gens puissent avoir accès aux aides. Et donc, aujourd'hui, ça a un petit peu changé, c'est-à-dire que ça s'est régionalisé. Les départements donnent un avis et c'est validé par la région. Et si l'avis est favorable, les gens obtiennent la fameuse DJA. Donc, ils touchent à peu près 75% du montant de la DJA. Et il y a le déblocage des prêts bancaires. Donc, en quatrième année, il y a retour sur le projet. L'administration examine la conformité des réalisations par rapport au projet et on verse le dernier quart de DGA. Donc, je vous donne quelques critères donc, qui permettent d'avoir accès à la DGA. Hein, moins de 40 ans. Des gens qui doivent être diplômés au niveau 4, donc niveau bac pro ou formation pour adultes. Il faut rester professionnel pendant 5 ans et il faut tenir une comptabilité pour pouvoir valider les chiffres du PDE. Et la grille d'attribution de la DGA est une grille qui est préformée, hein, avec 4 critères. Il y avait des points, c'est très compliqué. Premier critère, c'est le montant des investissements. Le deuxième critère, c'est la création d'emplois. Le troisième critère, c'est le hors-cadre familial. Et le dernier, c'est l'environnement. Et donc, plus vous empilez de ces critères, plus le montant de votre DGA peut être élevé. Donc, j'en reviens à ce qu'on appelle les freins à l'installation qu'on rencontre le plus généralement. Et le premier, c'est évidemment l'accès au foncier et puis l'accès au siège d'exploitation. C'est-à-dire qu'en général, les gens, ils ont ou du foncier ou des bâtiments, mais ils n'ont pas les deux en même temps. Et beaucoup d'exploitants qui n'ont pas anticipé leur retraite et qui ont des petites retraites ne souhaitent pas quitter leur habitation quand ils sont propriétaires. Et ça génère des pertes de sièges, en fait. Le deuxième critère qui me paraît hyper important, c'est que des cédants ne sont pas convaincus de la valeur de transmissibilité de leur exploitation. C'est-à-dire qu'on leur a bourré le mou en disant « vous êtes des gens finis, économiquement votre ferme elle est trop petite, elle est plus rentable et tout ça ». Et ils considèrent que pourquoi pas la donner à l'agrandissement puisque de toute façon leur exploitation elle est foutue. Et alors que c'est totalement faux, c'est justement ce que recherchent beaucoup de candidats à l'installation. Le troisième frein que moi je considère important, c'est l'économie agricole. Hein. Bon, il y a le problème effectivement de la rentabilité par rapport au prix. Et puis, il y a un espèce de ciseau terrible qui est le montant des capitaux engagés et la baisse de rentabilité de ces mêmes capitaux. Et là, on va vers une impasse à terme, c'est-à-dire qu'on peut pas, il n'y a pas besoin de faire des études d'économie pour voir que plus un capital est élevé, moins sa rentabilité est forte. On finit à zéro. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Donc, un autre critère économique, c'est des filières qui sont en déshérence et en perte de crédibilité. Hein. C'est toute la partie élevage industriel, volaille, porc et même l'arboriculture qui ne trouve plus de repreneur. Voilà. Il y a un critère professionnel. Il y a beaucoup de professionnels qui ne comprennent pas l'intérêt d'installer des jeunes. Ils n'ont pas encore compris que leur avenir, à eux, passait par une économie solidaire et que l'intérêt, c'était d'avoir des voisins plutôt que des hectares. Et puis, une certaine frilosité par rapport aux projets innovants et par rapport à la peur de l'échec. En agriculture, l'échec, jusque-là, on se vantait d'installer des gens, puis qu'ils restaient, ils faisaient toute leur carrière. Enfin, c'était une vraie réussite. C'est pas le cas en commerce, c'est pas le cas en artisanat. Et la peur de l'échec conduit à cette frilosité et empêche un peu l'innovation. Voilà. Je vais terminer mes propos avec le travail que fait l'ADR. Donc l'ADR, elle a deux cibles principales en ce qui concerne l'installation. Les cédants, et c'est très important. Donc il y a beaucoup de formations transmission, parce que céder une ferme, même si c'est une volonté, c'est pas simple. Ça implique des tas d'enjeux, des enjeux financiers, des enjeux juridiques, des enjeux humains. La deuxième cible, eh bien, c'est les porteurs de projets. Hein. Donc, avec un accueil individuel, une évaluation de l'état d'avancement du projet de la personne, de la mise en réseau, de la formation en fonction des compétences des gens. Parfois un accompagnement individuel, parfois un accompagnement collectif. Des formations qui concernent, par exemple, l'agriculture collective. Hein. Bon, on connaît bien les formes collectives classiques de type GAEC, ERL. Et puis aujourd'hui, se développent d'autres formes d'agriculture collective. Il y a plein de gens qui ont des projets collectifs. On parlait des grosses fermes qui se partagent. Et ben, il y a des gens qui reprennent des grosses fermes et qui se mettent à plusieurs et qui mélangent les activités. C'est super intéressant. La deuxième partie du travail, c'est un travail sur les territoires. La DR, elle va au plus près du terrain. Actuellement, il y a deux contrats auprès de Comcom, hein, un sur les Monts du Lyonnais, un sur le Haut-Pilat, et puis on est encore en discussion pour avoir d'autres interventions sur des territoires. Et ces interventions de terrain, ben, elles concernent la formation des élus. Elle concerne des activités type café-installation, de la mise en réseau, en fait, de porteurs de projets, de gens qui veulent arrêter. L'implication, l'animation d'un réseau local de paysans en place qui se charge de faire du repérage, qui accompagne les projets. L'ADR fait pas mal d'accompagnement à l'innovation. Elle a été à l'origine des espaces tests, par exemple dans le Rouennais, sur des nouvelles formes d'associations. Il y a eu des formations sur les SCOP, par exemple. C'est nouveau en agriculture, mais c'est en train d'émerger. Voilà. Je dresse rapidement ce portrait de travail, mais on pourra y revenir après. Et moi, je voulais dire en conclusion qu'on n'a pas de crise de vocation sur l'installation. Au contraire, on voit beaucoup de gens qui veulent s'installer, qui déboulent chez nous. Voilà. Notre souci, c'est qu'on voit beaucoup de projets individuels, et je dirais même des projets qui frisent l'individualisme. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas pensé que se mettre en réseau, par exemple, ça pouvait les aider. Et que nous, on a un vrai enjeu et un vrai défi, c'est de faire en sorte que toutes ces installations individuelles, elles trouvent un intérêt à devenir un peu plus collectif, quoi. Voilà. Et puis, en tout dernier, je dirais que c'est pour ça que je parlais des têtes grises tout à l'heure, c'est que l'installation, c'est l'enjeu de tous. Alors, de tous les individus, mais de toutes les associations, de tous les organismes officiel ou non officiel, de toutes les associations. C'est-à-dire que plus il y aura de gens qui vont s'occuper d'installations, et plus on a de chances de réussir. Ce qui vient parfois un peu en contradiction avec les organismes officiels qui ont l'impression que quand on s'occupe d'installations, on marche un peu dans leur gamelle et on disperse les moyens, alors que pour nous, on les multiplie, les moyens. C'est-à-dire que voilà, plus des gens vont s'occuper d'installation, plus on aura de chances de réussir. Voilà.
Merci, Denis. Bravo pour le travail de l'ADR. Alors, on voit bien que tu disais qu'il n'y a pas de crise de vocation à l'installation, et en même temps, le parcours est complexe et dissuade quand même tout un tas de vocations, puisqu'on aboutit sur 400 à 500 projets à 80, en gros, installations dans la Loire par an. Donc c'est cette difficulté, ce parcours du combattant qui est posé. Et tu disais que c'était l'affaire de tous, et notamment c'est l'affaire des collectivités territoriales. C'est-à-dire, quel rôle peut jouer une collectivité territoriale telle que Saint-Étienne Métropole, qui est quand même une grande collectivité territoriale, pour justement favoriser cette installation de nombreuses fermes et de centaines de paysans sur le territoire, parce que c'est ça. Enfin, on aime bien, nous, ici, poser les enjeux. C'est quand même ces enjeux-là qui sont posés, à ce niveau-là, qui sont posés. Donc je sais qu'à Saint-Étienne Métropole, donc, il y a des réflexions qui sont en cours sur ces questions-là. Vous venez d'être labellisé pour un PAT. Avec la volonté que ça ne soit pas simplement un label et une image, mais un contenu, et vous y réfléchissez actuellement dessus. Donc là-dessus, quelles actions vous promouvez et qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir pour favoriser ce mouvement d'installation ici sur le bassin stéphanois et dans le nord du département ?
Oui, merci. Je ne vais pas revenir sur les chiffres que je partage, sur ce que vous avez dit, sur les nombres et les choses comme ça, mais il y a quelque chose qui est très intéressant, ce que vous avez dit, c'est un peu cette inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a des cédants quelque part et on a des personnes en recherche d'installation et souvent, voilà, alors le modèle que vous avez évoqué au tout début, effectivement, de ces grandes exploitations, ce n'est pas forcément ce qui est cherché aujourd'hui. Donc il y a une vraie problématique là-dessus. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a sans doute pas de crise de vocation à proprement parler. Il y a plutôt une crise d'adéquation, quelque part, entre ce qui existe et ce que les gens recherchent. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Alors, Saint-Étienne Métropole, vous avez parlé des complexités. Les collectivités territoriales aussi, c'est bien complexe. Voilà, tout le monde fait un peu des choses. Nous, on a plusieurs enjeux. Tout d'abord, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est de préserver un foncier qui soit utilisable pour l'agriculture. Par exemple, là, il y a le plan local d'urbanisme intercommunal qui va se lancer. Alors, vous allez me dire, il sort un peu du sujet, mais pas du tout. C'est-à-dire que si on laisse tout se miter de partout avec des activités autres que de l'agriculture, on arrive très rapidement sur du conflit d'usage qui fait, pour l'installation, on voit que ça devient quasiment impossible, parce qu'on a ça aussi, c'est-à-dire que certaines personnes veulent bien certaines pratiques agricoles, mais si possible, pas derrière chez elles, c'est mieux. Enfin, je vous vois sourire, mais on gère aussi ces conflits-là, donc préserver des endroits où les gens peuvent s'installer et peuvent avoir leur activité. Alors, malheureusement ou heureusement, quand on a une ferme, généralement, ça ne sent pas tout le temps bon et ça ne fait pas tout le temps pas de bruit. Donc, il faut qu'on arrive à trouver ça. Donc là, il y a une vraie... Il y a une vraie problématique de conflit aussi d'intérêts parfois, et entre nous, collègues élus, il y a des débats qui s'installent là-dessus, parce qu'effectivement, il faut à la fois maintenir de la vie avec des activités autres que l'agriculture, mais l'agriculture est une activité économique soit, mais bien particulière. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des problématiques de voisinage. Donc la première chose sur laquelle il faut travailler, elle, avec tous les acteurs pour nous, c'est de maintenir ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce foncier quand même qui permet cette agriculture et la diversité de l'agriculture. Donc ça, c'est une des premières actions. La deuxième chose dont vous avez parlé, effectivement, c'est le projet alimentaire territorial. Alors oui, on a l'autocollant, ça fait toujours plaisir au vice-président d'avoir un autocollant, mais on l'a eu très vite, puisque effectivement, dans le cadre du plan de relance, il a fallu qu'on se positionne très vite. On va lancer la concertation avec tous les acteurs. Il y en a ici, je les vois, et on va discuter avec eux. Mais à quoi ça va nous servir? Ça peut nous servir, dans cette réflexion-là, à trouver aussi des débouchés pour les gens qui vont s'installer. Vous parliez de volonté, de nécessité collective. Parfois, et vous l'avez dit au démarrage, il y a la production, mais il faut aussi trouver un débouché sur des marchés qui peuvent être saturés et réfléchir à ça tous ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on en fait demain par rapport à la demande qu'on peut avoir sur le territoire. Et là, je vous rejoins sur le fait que nous, on est acteurs, pas forcément agriculteurs. Moi, j'ai plus de 40 ans maintenant, donc je ne peux plus avoir les aides de jeunes agriculteurs. Mais on est aussi acteurs, nous, en fonction de ce qu'on va acheter et de ce qu'on veut. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. Qu'est-ce que nous, la collectivité... Là, on n'est pas 6 mois, 2 ans, 3 ans. Là, il faut se projeter sur du au moins moyen terme. Mais qu'est-ce qu'on va essayer d'aider à produire sur le territoire qui va trouver un débouché? Le but, c'est d'essayer d'y trouver un débouché aussi sur Saint-Étienne Métropole. La chance qu'on a, c'est qu'on est très varié. Vous avez parlé d'arboriculture, d'élevage. Enfin, voilà, on a toutes ces choses-là. Des réflexions sur du maraîchage aussi, parfois, qu'on peut ne pas avoir à dose suffisante. Il y a ces réflexions-là. On n'a pas, nous, tous les cordons de la bourse. Vous l'avez dit, sur l'aide à l'installation... Ce n'est pas Saint-Étienne Métropole qui va déployer des centaines ou des millions d'euros, puisque là, on est chez d'autres acteurs qui, eux, ont cette vocation-là. Mais il faut travailler avec eux pour qu'on oriente aussi tout ça. Et puis, une autre chose, donc, dans ce cadre de ce projet alimentaire territorial, c'est effectivement ça, réfléchir à ça, travailler avec les collègues maires, effectivement, parfois, et bien, sur des règles d'urbanisme, vous l'avez dit, comment on travaille sur le fait que celui qui cède, il peut rester installé sur l'exploitation, celui qui vient... Il peut aussi s'installer, mais il faut faire attention au fait qu'on n'ait pas un peu de la volonté, il faut que je le dise bien, mais de l'opportunisme en disant oui, mais du coup, moi, je vais pouvoir installer une autre maison, un autre bâtiment, puis le vendre derrière, voilà, alors que je vais installer un nouveau paysan dans ma ferme. Donc, on a tout ça aussi à construire. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire des gens qui veulent reprendre et que vous dites qu'ils ne peuvent pas s'installer. Et on a des règles d'urbanisme, parfois, qui interdisent de construire une deuxième habitation sur l'exploitation. Donc là aussi, la métropole et les communes, on peut y travailler. Et la dernière chose qu'on a et auquel le PAT peut nous aider, et vous l'avez dit, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble. Il y a des acteurs, il y en a là aujourd'hui, il y en a d'autres que vous avez cités dans l'agriculture. Et le but, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble. Parce que je pense qu'effectivement, la peur de travailler avec les autres, il ne faut pas l'avoir. La peur qu'on pourrait avoir, c'est de ne plus avoir de paysans sur la métropole. Et après, on aurait l'air tous bien malins. Donc, il faut arriver, même si parfois, on n'a pas les mêmes idées sur tout. Moi, je travaille avec des gens qui n'ont pas forcément la même visée sur tout, et c'est enrichissant. Mais il faut arriver à travailler tous ensemble, parce qu'il faut de la place aussi pour tout le monde. Et ça, c'est pas forcément évident. Et la métropole, là-dessus, sur cette politique-là, dont j'ai la charge, là, l'agriculture et l'alimentation, il faut être, je pense, tout sauf dogmatique. C'est-à-dire qu'il faut être très ouvert. Et on a parfois des projets qui vont être portés, j'allais dire, avec l'ADR, avec l'ARDA, avec des choses comme ça. D'autres, parfois, avec la Chambre d'agriculture, qui vont nous permettre d'installer des gens. Et effectivement, même si tout ça n'est pas simple, il faut, nous, notre rôle, effectivement, c'est ce rôle de travail collectif qu'il faut qu'on porte. Et puis être aussi sur des actions un peu innovantes. Vous avez parlé d'espace test dans le Rouennais. Peut-être on réfléchit, nous, à des espaces type pépinière pour que des gens testent et puis peut-être se ratent. La pépinière aussi, parfois, ça sert à se rater. Il n'y a pas trop de conséquences derrière une fois qu'on s'est raté, quoi. Donc on y réfléchit aussi. Il faut trouver les outils pour mettre ça en place. Et puis parfois avoir des aides ponctuelles sur des gens qui veulent se lancer. On a eu des GI2E de protéines végétales, des choses comme ça. Ils veulent se lancer, on les aide un petit peu. Alors parfois, c'est de l'argent. Et puis parfois aussi, c'est de l'aide à monter des dossiers. Là, ceux qui en montent, voient ce que je veux dire. C'est-à-dire pour monter des dossiers administratifs et rentrer dans les cases, parfois, on a besoin d'un petit peu d'aide. Et là, la métropole, elle peut aider. Voilà, ce qu'on est, ces aides derrière. Donc moi, tout ça, j'y crois beaucoup. Effectivement, on ne sera pas le banquier de tout ça là-dedans, mais c'est d'aider et puis de donner toutes les conditions qu'on peut donner à, à ces gens qui veulent s'installer, travailler aussi avec les autres collectivités, hein, le département, la région, les communes, voilà, pour leur donner, enfin, j'allais dire l'envie, et puis surtout la conscience du fait que, bah, il est important que ces agriculteurs restent sur leur commune. Voilà. Et puis sur d'autres choses, eh bien, il faut qu'on travaille. Par exemple, quand vous parliez de l'arboriculture, ça c'est un dossier qui est prégnant. Hein. On voit bien que là-dessus, le changement climatique notamment, il est très important. Bah, la gestion de l'eau, toutes ces choses-là, le changement des pratiques, on a un gros travail à faire là-dessus aussi, bah, pour que ces exploitations, elles deviennent ou elles restent transmissibles. Donc on a de gros, gros chantiers, mais il faudra qu'on ait voilà, un gros travail avec les partenaires là-dessus.
Oui, alors du côté des consommateurs, parce que quand on parle installation-transmission... C'est pas évident de dire les consommateurs ont un rôle à jouer. Et pourtant, on en parlait un peu ce matin dans le débat là, sur les filières. Si on veut créer un vrai mouvement social qui permette de modifier les orientations actuelles et les processus actuels, il y a nécessité à la fois de discuter avec ceux qui produisent, mais aussi de connecter avec... Quelle est la demande des consommateurs, notamment, mais aussi d'autres acteurs de la société. Donc, je sais que, bon, au réseau Aura des AMAP, dans le mouvement des AMAP, il y a eu un mouvement qui a permis à des agriculteurs de pouvoir avoir des débouchés et donc de s'en sortir, d'avoir des prix, comme on dit, rémunérateurs, et donc de pouvoir vivre de leur travail. Mais vous voyez les choses comment du point de vue au-delà de ce que peut faire telle et telle AMAP au niveau de la région Rhône-Alpes, puisque c'est le réseau Aura des AMAP. Comment vous envisagez politiquement cette question du point de vue des consommateurs ?
Alors, bonjour, donc, je m'appelle Christelle Bergeau. Je suis administratrice au réseau des AMAP. Enfin, je rappelle juste, AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Sont des groupements de consommateurs qui proposent à des producteurs de venir distribuer leur production une fois par semaine et qui s'engagent à lui financer sa production quoi qu'il arrive. Donc l'idée, c'est de passer un contrat avec lui en direct et de le payer en début d'année ou en plusieurs fois pour la production de l'année qui suit. Donc ça lui fait une trésorerie et en tout cas, et ça lui couvre ses risques. Donc il y a simplement, là, j'ai un petit guide, vous le verrez tout à l'heure. On a 300 AMAP dans la région. Il y a un stand là-bas qui montre toutes les AMAP autour de chez vous, là, en espérant que vous y soyez déjà, vous ayez envie d'en rejoindre une, voire que vous en créez une, ce serait encore mieux. Les consommateurs, il y a quand même pas tout le monde qui est impliqué dans l'agriculture et l'agriculture paysanne. Moi, je suis habitante du centre de Lyon. Alors, autant vous dire que les paysans, ils sont quand même loin de moi, et géographiquement et dans mon esprit. Et pourtant, via la MAP à laquelle j'appartiens, parce que j'ai souhaité connaître celui qui produisait pour moi et être à peu près sûre que ce que j'avais dans mon assiette était... de bonne qualité, je vois bien qu'il y a quand même quelques difficultés puisqu'on les rencontre toutes les semaines, nos paysans. On les voit grandir, on les voit dans leurs difficultés, on les voit vieillir et on peut se poser des questions sur la pérennité de l'association et de leur production. Donc, on a... Après, alors, je veux juste vous dire qu'un amapien, c'est un citoyen à la base, donc qu'on soit... amapien ou pas amapien, de toute façon, il faut qu'on mange. Donc, ça concerne forcément tout le monde. Ce qu'on s'est dit récemment, c'est qu'on ne pouvait pas rester en dehors de cette problématique de l'installation de transmission, notamment au niveau d'une implication dans l'acquisition de foncier ou du maintien du foncier aux paysans qu'on soutient, voire à l'aide à des porteurs de projets pour qu'on puisse monter de nouvelles AMAP. Donc on a monté un petit groupe de travail au réseau pour essayer de donner des idées à des citoyens amapiens sur tout ce qu'ils peuvent faire, eux, pour aider à résoudre cette question. Donc on a assez... Je vous proposerai de regarder ce petit guide après si... si j'arrive à vous convaincre, je l'espère, n'hésitez pas à me chahuter un peu si vous n'êtes pas assez convaincu de ce que je dis. Il y a des choses qu'on peut faire, s'intéresser à la condition des paysans, s'intéresser aux terres qu'on a autour de chez nous. On peut éventuellement participer à la construction d'un GFA. Donc il faut qu'il y ait un porteur de projet, bien sûr, avec un citoyen, mais les citoyens peuvent financer et bien financer un GFA. Ils peuvent monter une association. Il y a des associations qui se sont montées, comme la Ferme pour tous, vous verrez, il y a un exemple là-dedans qui est très sympa, pour aider à acheter des terres et ensuite les louer à des paysans. Donc il y a des initiatives comme ça, il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est des choses que nous, on peut faire. Après, il y a des associations comme Terre de Liens. On peut tout simplement mettre quelque part, prendre quelque part, ou même être formé pour devenir bénévole, pour aider à l'installation, à la transmission des paysans. Toujours est-il que... moi, je pensais que c'était quelque chose qui était très loin de moi. Je ne le voyais pas du tout comme étant un problème, jusqu'à il y a encore peu de temps. Pour moi, des légumes, il y en avait. Il n'y a qu'à aller chez Carrefour, il y en a plein. Sauf que, en réalité, on ne sait pas bien d'où ils viennent, ces légumes-là. Que les circuits courts qu'on trouve, on ne le voit peut-être pas aujourd'hui, mais ils sont quand même un peu menacés, pour toutes les raisons que ces messieurs ont énoncées avant moi. Et que si nous, ceux qui mangeons, on ne fait rien, et ben on va se retrouver à ne plus avoir que des légumes en plastique qu'on trouve chez Carrefour. Et probablement de moins en moins de diversité. Donc il est un peu temps qu'on commence à se poser la question de ce qu'on peut faire pour continuer à manger correctement.
Bon, on a là en gros 40 minutes. Hein, il faut vraiment qu'on termine à 16h parce que derrière, il y a une autre conférence débat qui débute à 16h. Donc on est un peu contraint par le temps. Donc voilà, la parole est à vous. Donc moi, je fais passer le micro. On peut prendre plusieurs remarques, questions, et puis les intervenants réagissent par rapport à ça. Qui se lance ?
Oui, merci. Je vous suis depuis ce matin, monsieur, j'ai oublié votre nom, qui parrainait la structure. Vous nous dites qu'il faut absolument créer une démocratie alimentaire. Vous nous dites qu'on a besoin de plus d'un milliard de paysans. Et puis ensuite, vous nous dites... Un million. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait, effectivement ? Alors, j'entends s'intéresser aux problèmes, ça, c'est important, mais nous, qui sommes, effectivement, pas forcément au niveau des terres, ça veut dire quoi ? Et je suis surprise de ne pas voir Terre de Liens, effectivement, autour avec vous, parce que ça veut dire qu'effectivement, il faut, par exemple, que nos économies, on les mette plus dans une banque, mais qu'on les mette chez eux. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, que de faire de la démocratie alimentaire, et comment est-ce qu'on peut y arriver ?
Messieurs, dames, il y a quelques années, il y a eu une grosse crise agricole au niveau des porcs en Bretagne et de nombreux paysans, agriculteurs, ont été obligés de vendre aux structures qui leur achetaient les cochons les fermes qu'ils avaient. Est-ce que, en n'ayant pas de reprise et des fermes à gros capital que l'on doit reprendre en s'installant, compte tenu qu'on reprend aussi des prêts souvent maintenant, on ne va pas s'acheminer vers des reprises d'exploitation lait ou élevage bovin par des structures Danone, Nestlé et autres pour les intégrer dans le circuit.
Oui, moi j'avais une question. Donc je crois qu'on rappelle combien il y avait d'agriculteurs dans les années 70 dans la Loire et combien il y en a aujourd'hui. Et du coup, ma question, elle est au niveau de... on dit on va travailler avec tout le monde. Le tout le monde, il y a quand même une partie de ce tout le monde qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette situation. Et je dirais qu'il y a, par exemple, pour les citer, la Chambre d'agriculture, hein, la FNSEA et tout ça, qui sont quand même, je dirais, les acteurs. Ils ont été les acteurs, ils ont tiré les ficelles de ce système qui, aujourd'hui, va droit dans le mur. Donc, OK, travailler avec eux, mais comment, pourquoi et surtout à quelles conditions ?
Oui, du coup, on va essayer de panoyer la question. Comment construire une démocratie dans l'alimentation ? Pas une démocratie alimentaire, parce que la démocratie ne se divise pas. On ne va pas parler de démocratie pour chacune de nos activités. La démocratie, on vit dedans ou on vit à côté. Et on vit dans la démocratie. Pour ce qui concerne notre alimentation, c'est une démocratie de l'alimentation. Et c'est l'objectif, c'est-à-dire que vous, qu'ensemble, nous formulions, c'est ça le but du jeu, c'est qu'ensemble, par un processus sur lequel on a déjà quelques idées, nous arrivions à formuler ce que nous voulons manger. Ça va peut-être être compliqué, mais ça va prendre un an. Du temps, on y arrivera. Il y a certains déjà débats citoyens dont les résultats nous ont peut-être un peu déçus, mais qui ont montré qu'on pouvait le faire. Ça veut dire aussi que nous allons être mis en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous rencontrions des professionnels de l'agriculture pour dire ce que vient de dire mon collègue tout à l'heure, des professionnels de la transformation du circuit alimentaire, des professionnels de la distribution, de tout ce qui en fait fabrique notre alimentation. Il va falloir qu'on soit mis en connaissance de cause de ça, qu'on décide ensemble, c'est-à-dire pas le petit représentant de la petite partie de la société que nous sommes, là, l'ensemble de la société, persuadé et l'exercice de ça. Ne pas venir à la table avec son drapeau en disant « moi je veux de la bio, moi je veux des ababes, moi je veux de ceci, je sais de ce qu'il faut ». Laisser l'expression démocratique de ce que l'on souhaite en agriculture, en alimentation, pardon. Et on a quelques idées sur la manière dont on veut ça et dont on peut y arriver, qui sont ce qu'on appelle en gros la socialisation de l'exercice agricole et alimentaire. Et par exemple, puisqu'on s'est référé à ce qu'il existe en termes de santé, nous, on propose, c'est pas une solution, c'est une proposition d'une caisse de sécurité sociale de l'alimentation. La caisse de sécurité sociale de l'alimentation, c'est parce qu'on va y cotiser tous, là, sans distinction de savoir si on est grand, petit, maigre ou gros, et surtout si on est riche ou pauvre, on va y cotiser tous, suivant nos moyens, pour en bénéficier, suivant nos besoins. C'est à peu près comme la santé. Et ces cotisations-là vont nous obliger à participer à la définition de ce que nous voulons manger. C'est le principe de la démocratie. L'État, y compris les collectivités locales, c'est moins évident, mais l'État, en tout cas certainement en France aujourd'hui, en matière alimentaire, n'est plus un garant de la démocratie. Ça, on peut le prouver. L'État fait partie intégrante du complexe agroalimentaire qui nous nourrit de manière industrielle et dont l'objectif est de faire disparaître les paysans. Donc n'allons plus rien réclamer à l'État. Les collectivités locales, je vous l'accorde, c'est tout à fait autre chose. On peut en parler, mais il y a encore, et vous venez de le prouver d'ailleurs, un peu de grain à moudre là-dedans. Et cet exercice-là nous met de la démocratie comme ça. Alors il y a des discussions entre nous et auxquelles il va falloir que vous vous joigniez pour savoir si on va faire dans ces caisses-là, on va les constituer sur autour de 20 000 ou 30 000 personnes, des bassins de vie de quelle taille, comment on va s'y prendre, est-ce que c'est des élections par liste, est-ce que c'est du tirage au sort pour que chacun soit assuré d'eux, est-ce qu'on y met des quotas, etc. Tout ça, ça s'appelle la démocratie. Et une fois qu'on aura constitué ce parlement de l'alimentation, qui peut être une métropole comme ici, à travers un PAT, pourquoi on pourrait très bien essayer de mettre en œuvre ce genre de choses. Vous prendrez le risque, en tant qu'élu, de la démocratie. C'est-à-dire de vous trouver après un an ou deux de consultation, comme M. Macron s'est trouvé, et tous ses affidés, devant des propositions qui sont à l'opposé des vôtres. Et dans ce cas-là, d'être obligé de faire comme si vous étiez sourd. Donc ça, c'est un risque, c'est le risque de la démocratie. Nous sommes persuadés que c'est un peu ce qui va arriver. Et du coup, voilà, c'est un exercice auquel il va falloir qu'on se livre collectivement. Le risque, pour revenir sur la question de l'installation, c'est que personnellement, je suis persuadé que tous nous voulons manger à peu près la même chose. Il n'y a personne qui se lève le matin pour empoisonner son enfant. Ils le font. Il n'y a pas un paysan qui se lève le matin avec le plaisir d'aller traiter son champ de maïs avec du bétanal tramate. Non, ça, c'est les betteraves, excusez-moi. Du bétanal tramate. Ah, putain, c'est le pied aujourd'hui. Je m'en fous plein le sang et les reins. Et c'est super. Il n'y a pas un paysan qui se lève pour ça. Pourtant, on le fait. Il n'y a pas une d'entre vous qui se lève le matin en disant « Bon, allez, je suis content de donner du sel, du gras à mes enfants. » Et pourtant, on le fait. Donc ça, on va en sortir parce que l'exercice démocratique va nous permettre de le faire. Je vous assure, ce n'est pas des mots. Hein. Ça s'est fait à une époque pour la sécurité sociale de santé. Ça se fera demain, si nous le souhaitons, pour cet exercice alimentaire. Vous pouvez opiner du chef. Si vous ne le faites pas, si on ne le fait pas, l'autre modèle, il est là. C'est 170 000 paysans qui n'en sont plus, qui seront tout à fait autre chose, et de la nourriture industrielle produite par des robots. C'est ça le choix qui s'offre à nous. Il n'y en a pas d'autre. Mais quand on aura décidé du modèle alimentaire, il va falloir qu'on se le confronte avec le modèle de production. Et là, tout d'un coup, on va comprendre que 400 000 paysans, ça ne marche pas. C'est impossible. On ne peut pas proposer à la société de choisir son modèle alimentaire démocratiquement, c'est-à-dire d'exprimer que tous, nous voulons manger correctement et ne pas être dans l'incapacité de les satisfaire après. C'est là que l'installation est primordiale. Il va nous falloir des centaines de milliers de paysans, c'est-à-dire de personnes qui, à un titre, à un autre, à un moment, à un autre, produisent de l'alimentation sur des grandes surfaces, sur des petites surfaces, pour elles, pour d'autres, pour leurs voisins et pour l'ensemble de la société. C'est ce type de société qu'il faut qu'on construise avec les artisans qui vont avec les commerçants qui vont avec tout ce qu'on retrouve dans une société rurale bien construite. Et ça, c'est l'enjeu, parce que si ce n'est pas ça, je vous ai déjà dit, je vous le redis, il y a une proposition autre. Et tout ce que nous ne voulons plus perdre, le moindre mètre carré de terre arable, qu'il soit en ville ou qu'il soit à la ferme, on ne peut plus se permettre de perdre le moindre mètre carré de terre arable, même si c'est pour nous raconter des histoires qu'on va les compenser en Amazonie avec des arbres, ou par ici ou par là. Ce qui est arrivé, redis-moi, le quartier du nord de Paris, là où on est en train de détruire des jardins ouvriers pour construire une piscine pour les Jeux Olympiques, là, Aubervilliers. Ce qui est arrivé à Aubervilliers, c'est l'horreur. C'est la même horreur que quand vous voyez une ferme disparaître sous une construction d'HLM ou de hangar, comme on en voit au bord des villes. C'est la même horreur. Et j'ai rencontré des gens d'Aubervilliers, je me suis rendu compte qu'ils avaient le même désespoir que le nôtre. Vous voyez ? Et c'est là-dessus qu'on doit tabler pour se dire, mais tous ensemble, on va y aller où ? Le remarquable travail que font les AMAP, je le vois, je sais ce que c'est, je sais ce qu'ils font. C'est peanuts, quoi. Et on ne peut pas se passer du travail que font les AMAP. Ils montrent à tout instant qu'on peut se passer et se séparer du capital dans une exploitation. Or, la misère du paysan aujourd'hui, c'est qu'il se lève le matin avec des dettes et qu'il se couche le soir avec de la fatigue et des dettes de retour. On est obligé de sortir de ça. Tu disais combien ? 140 000 euros de capital, 170 000. Chez nous, c'est 240 000 le capital nécessaire, moyen pour s'installer. Et moi, je ne vais pas honte, je vais vous le dire. Quand je suis parti en retraite, mon capital d'exploitation, et pourtant j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il en soit autrement, il était de 100 000 euros. Je n'ai jamais été aussi riche de ma vie. Ma retraite, c'est même pas 1000 balles, tu sais. Il n'y a pas besoin de se cacher. Et j'ai 100 000 euros sur mon compte. Le Crédit Agricole, depuis, quelqu'un disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de nos économies ? C'est peut-être vous, d'ailleurs. Le Crédit Agricole, depuis, il ne me lâche plus. Ça fait 10 ans qu'il me téléphone une fois par semaine pour « Eh, on sait quoi faire avec votre pognon, on sait quoi faire avec votre pognon. » Alors, on a commencé à le mettre dans des GFA, des choses comme ça. Mais ce n'est pas un moi, simple citoyen, avec ma carte de consommateur qui vais décider d'un mouvement de fond, d'un mouvement social profond. Je vais me joindre à vous pour demain, on mange autrement. Et si vous voulez manger, alors ça va être plus difficile à entendre, mais si vous voulez manger correctement, si nous voulons manger correctement, qui va produire cette nourriture ? Vos enfants, vos petits-enfants, vous peut-être ? Vous vous imaginez ce que ça veut dire ? À combien de Français dans la rue vous allez poser la question : est-ce que tu veux que ton fils soit paysan ? Est-ce que tu veux que ta fille soit paysanne ? Ah oui, je n'aspire qu'à ça. Non, personne. J'ai vu tout à l'heure Saint-Étienne, ville du désigne, ou un truc comme ça, là, je ne sais plus. Design. Ah, bah c'est mieux comme ça. Ça va beaucoup mieux tout de suite. Est-ce qu'un jour, on verra métropole paysanne ? Voilà, vous voyez, ça, c'est dans nos têtes. Les paysans, c'est l'île de la terre. Tous, depuis 70 ans, on subit ce truc-là. Et on les a sortis de la merde, on leur a donné des tracteurs et de l'argent. Ils vont quand même pas retourner à la terre, dans la boue. On va pas y aller avec eux. Ben si, il va falloir que vos enfants, vos petits-enfants, les miens, avec... On retourne au boulot. C'est ça l'installation. C'est ça l'installation demain. Et je pense qu'on n'a pas le choix, quoi. Et on peut le faire. Dites-vous bien que tout est là qui montre qu'on peut le faire. Ceux qui vous racontent autre chose, ils vous racontent des histoires.
Alors, je vais répondre à la deuxième question. Et je vais vous parler d'un temps où j'avais encore des cheveux. C'est vieux. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les commissions paritaires. Et on mesure toujours le retard des trains, mais jamais ceux qui partent à l'heure. Et dans l'évolution de l'installation, quand j'étais jeune, parler d'agriculture biologique, c'était un gros mot. Parler d'installation féminine, c'était un gros mot. Donc on peut mesurer aujourd'hui l'évolution du travail de fond qu'on a fait pour faire accepter que des gens puissent s'installer en bio, que des gens puissent s'installer quand, ils sont une, quand on est une femme. Et voilà, donc il y a une réelle évolution qui ne se voit pas forcément. Effectivement, il y a encore des professionnels qui, et je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des freins à l'installation, parce qu'ils n'ont pas encore compris, effectivement, ce que vient d'expliquer Jean-Claude, qu'il y avait d'autres une autre possibilité et une autre évidence à l'installation. Ceci dit, moi, en tant que professionnel, je ne peux pas me passer de ces gens-là parce que, de toute façon, j'ai envie de bosser. Et si je ne bosse pas avec eux, je ne bosse pas et je n'avance pas sur les dossiers. Donc, il faut vraiment qu'on se prenne la tête souvent, régulièrement. Et par contre, on a l'impression quand même qu'on fait avancer les choses. Et puis, je voulais simplement dire une chose, c'est que dans les années Hollande, il y a eu les assises de l'installation qui ont été une chose très intéressante. Et ils ont commandité des sondages pour essayer de voir quel était le profil des jeunes qui voulaient s'installer. 70% des jeunes qui voulaient s'installer, ils voulaient s'installer soit en circuit court, soit en agriculture biologique. Et ça, si les professionnels qui tiennent les chambres d'agriculture, qui tiennent les FNSEA, ne sont pas capables de l'entendre, eh ben, ils vont se tuer tout seuls, quoi. Parce que 70% dans un renouvellement d'agriculteurs, c'est hyper important. Et ces gens-là, il faudra qu'ils changent leur discours à un moment et qu'ils l'adaptent à leur public, parce que c'est aussi leur public.
Oui, la troisième, elle était pour moi, effectivement, mais je rejoindrai un peu ce que vous avez dit aussi. Enfin, moi, je le dis là et je pourrais le dire ailleurs. On peut pas non plus, je pense, c'est des partenaires qui existent aujourd'hui. Alors, effectivement, dire qu'il y a eu des erreurs de fait, ça serait quand même terrible que je vous dise non, tout est bien, je souscris à 100% sur ce qui a été fait. Mais dire, on tourne carrément le dos. Alors, ils ont été nommés chambre d'agriculture, tout ça, aujourd'hui, la métropole ne veut absolument plus travailler avec eux. Ça veut dire que là, pour le coup, on bloquerait beaucoup de choses et on aurait l'arrêt de certaines actions qu'on a lancées qui seraient quasiment immédiates. Il y a aussi des choses qui gèrent. Si on parle d'argent, il y a de l'argent aussi qui transite par ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils font. Moi, j'ai des dialogues très francs avec eux aussi. Cette année, on a changé les modalités de rapport, par exemple, entre la métropole et la chambre d'agriculture. On est parti sur des conventions d'objectifs et plus sur des conventions qui étaient un peu des conventions qu'on reconduisait annuellement. Ça permet aussi de fixer ce que veut la métropole. Ça permet de dialoguer avec d'autres, ça permet d'ouvrir aussi sur certaines procédures le choix des structures avec lesquelles on travaille. Et la volonté, c'est d'y aller avec tout le monde. Alors, il serait plus facile aujourd'hui de faire ARO sur la chambre d'agriculture et ARO sur l'ADR et l'ARDAB quand j'irai à la chambre d'agriculture. C'est toujours facile, mais moi, je pense pas. Je pense qu'il faut effectivement confronter ces idées-là, des erreurs. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des fermes, aujourd'hui, vous l'avez dit, qui sont quasiment irreprenables. Elles ont atteint un tel montant, enfin, capitalistique et puis un tel endettement que, bah voilà, pour les reprendre, la mise de départ, elle est quasiment impossible à avoir. Donc, j'allais dire, parfois même eux le reconnaissent. Hein, je veux dire, voilà. Et donc ces choses-là, il faut aussi qu'on évolue. Le modèle, il est sans doute au bout du bout. Ça veut dire aussi, si on parle de l'enseignement agricole, bah, qu'il y a des choses à revoir aussi là-dedans. Ça, c'est pas la métropole, mais il y a eu à un moment l'enseignement et la formation, elle s'est calée sur ces modèles-là, hein, qu'on le veuille ou non. Elle était aussi calée là-dessus. Et on peut pas dire non plus, bah, ceux qui sortent de l'enseignement agricole ou qui ont été formés comme ça, bah, ils vont plus pouvoir reprendre de ferme. Je suis peut-être un peu dur ou caricatural, il vous semble, mais c'est vrai. Donc ça veut dire s'ouvrir à ça. Ça veut pas dire non plus faisons comme en 60, 70, 80, 90 et tout va bien. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, personne n'a envie de se lever le matin en disant oui, on va faire manger des trucs horribles à nos enfants, à nous, à tout le monde et commençons à nous empoisonner dès 6h30 du matin. Enfin, je pense que personne n'en a envie. Mais le rôle de la métropole, le rôle un peu particulier qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas notamment celle qui a la compétence globale en agriculture, bah c'est aussi de travailler avec tout le monde. Et il y a aussi des politiques au niveau national qui sont importantes, vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je suis à la métropole, je suis aussi maire. Hein. Je suis pas, c'est facile de le dire, je ne suis pas dans un ministère à Bercy ou à l'Élysée. Hein. Des paysans, il y en a derrière chez moi, au Chambon-Feugerolles, il y en a. Moi, je suis maire, on a des problèmes de reprise aussi. Et on voit bien ce que ça peut faire quand les fermes ne sont pas reprises hein, par la suite. Et les problématiques que ça peut poser. Donc effectivement, il faut qu'on soit aussi là-dessus pragmatique, mais qu'on ait aussi des exigences. Le modèle qu'on veut, effectivement, c'est pas ce modèle ultra-productiviste et toutes ces choses-là qui a pu avoir cours. D'ailleurs, qui évolue beaucoup. Moi, je vais prendre l'exemple, quand c'est près de chez soi, c'est toujours facile. Il y a un paysan derrière chez moi qui est passé à l'agriculture biologique dans les 10 dernières années. Il y a 20 ou 30 ans, ça aurait fait rire tout le monde, comme vous le disiez. Ben, aujourd'hui, voilà, et tout ça, ça se développe. Et je pense que c'est un bien aussi que tout ça, ça puisse se développer. Et de parler avec tout le monde, bah voilà, c'est un bien aussi. Mais il faut aussi confronter ses idées et pas être... Pour moi, il n'y a pas un seul modèle voilà, qui était peut-être un modèle qui a été dogmatique à un moment et qui a été répandu partout, mais il faut avoir la volonté de se confronter. C'est mon avis. Voilà. C'est pour ça que oui, on travaille aussi avec eux et on travaille avec d'autres.